14h10 à Paris, 8h10 à Port-au-Prince. C'est l'heure du journal d'Haïti et des Amériques avec vous, Céline Pellarin. Bonjour.
Bonjour Fanny Blechner et bonjour à tous. On va parler de la fin du rapprochement des États-Unis avec Cuba. Les États-Unis qui ont émis de nouvelles restrictions aujourd'hui sur les échanges commerciaux et les visites des ressortissants américains sur l'île. Elles prennent donc en effet aujourd'hui et c'était l'une des promesses de campagne de Donald Trump. Nous appellerons Franz Duval du Nouvelliste en Haïti où il nous racontera un scandale lié à un trafic de chèques détournés et l'impuissance de la justice du pays face à ces détournements de fonds. Dans sa revue de presse, Arim Lipol reviendra sur la situation au Venezuela. L'Assemblée constituante a voté une loi qui condamne de 10 à 20 ans de prison quiconque incite à la haine et à la violence. Alors est-ce un contrôle des médias et des partis politiques avant les élections et alors que le pays est au bord de la faillite? On verra ce qu'en dit la presse. Vous entendrez également le ministre vénézuélien de l'éducation. Il a été interviewé par Marie Normand. Il revient sur la crise que traverse son pays. Enfin, nous retrouverons Edwige Saint-Thomas pour le journal des Outre-mer. Vous écoutez le journal d'Haïti et des Amériques. Bienvenue. Nous partons donc en Haïti pour débuter ce journal. On y retrouve Franz Duval. Vous êtes le rédacteur en chef du Nouvelliste et vous nous parlez aujourd'hui d'une affaire qui a pris une ampleur conséquente, un scandale de chèques détournés.
Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales haïtiennes a dénoncé mercredi l'existence d'un vaste réseau de faussaires responsables de la falsification de chèques sur le compte public de son ministère. Depuis deux semaines, cette affaire défraie l'actualité. De vrais faux chèques sont échangés dans le système bancaire haïtien après falsification de toutes les mesures de sécurité. Des millions de gourdes ont été détournées selon les premières indications de l'enquête. Pour le moment, une dizaine de personnes, des cadres du ministère et des membres du secteur privé, sont sous les verrous dans le cadre de cette affaire dont toutes les ramifications ne sont pas encore connues. Selon le ministre, l'enquête a permis de découvrir l'existence d'un réseau de malfaiteurs hyper spécialisés opérant sur tout le territoire en orchestrant des crimes financiers. Ils opèrent depuis des jours, des mois, voire même des années, a fait savoir le ministre.
Et quel est le traitement que la justice donne à ce type de dossier?
Ce n'est pas la première fois que des réseaux similaires sont démasqués. Ces dernières années, les ministères de l'Éducation nationale, celui des travaux publics, ont connu des cas semblables de vrais faux chèques. À chaque fois, on bat la grosse caisse, les coupables sont dénoncés, arrêtés, puis relâchés. Il n'y a jamais eu de procès, encore moins des condamnations pour détournement de fonds publics et haute accusation relevant des crimes d'argent.
Vous revenez également, Franz Duval, sur un véritable cri d'alarme qui a été lancé d'Haïti cette semaine.
À l'issue d'un colloque international tenu à Port-au-Prince de lundi à mercredi, les dirigeants des pays de l'Amérique latine et des Caraïbes, la société civile, les personnes vivant avec le VIH en Haïti, ont lancé un appel à l'action au profit de la lutte contre le sida. Cette lutte est menacée par un sous-financement des bailleurs internationaux, déplore-t-il. Au terme du troisième forum des pays latino-américains et des Caraïbes qui s'est tenu les 6, 7 et 8 novembre dernier en Haïti, les acteurs se sont engagés à adopter une approche focalisée sur les personnes pour mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030. Cependant, face à la réduction de l'aide internationale, ils exhortent les gouvernements des pays de la région à adopter des mécanismes de financement domestique pouvant assurer financièrement les programmes de lutte contre le VIH.
Et ce n'est pas seulement le sida qui retient l'attention.
Cette semaine se tiennent deux importantes rencontres sur les maladies mentales en Haïti. D'un côté, mercredi a eu lieu une conférence sur le vaudou et les maladies mentales dans le cadre du congrès de neurologie et de psychiatrie Haïti-Québec. Et de l'autre, ce jeudi, s'ouvre un colloque scientifique de trois jours sur les maladies mentales en Haïti. Les maladies mentales, leur diagnostic et leur traitement sont des parents pauvres du système de santé en Haïti.
Merci Franz Duval, journaliste et rédacteur en chef du Nouvelliste. On vous retrouve jeudi prochain. Arim Lipol, bonjour.
Bonjour Céline.
On va parler avec vous de la revue de presse. On prend la direction tout de suite de Cuba, puisque c'est à partir de ce jeudi que les restrictions commerciales décidées par le président américain Donald Trump entrent en vigueur.
Oui, et c'est donc à la une du Miami Herald et aussi de la presse cubaine. 180 entreprises cubaines sont concernées par cette mesure, selon le Miami Herald, des entreprises contrôlées par les militaires, ajoute le journal de Floride. L'objectif de ces restrictions est de couper le flux d'argent vers l'île ville, précise le quotidien. La décision du président Donald Trump aura aussi des conséquences sur le tourisme, estime le New York Times. Désormais, les Américains auront à nouveau besoin de passer par une agence de voyage et être parrainés par une organisation américaine pour se rendre à Cuba.
Mais la grande question, les pressions économiques sont-elles vraiment, accélèrent vraiment les réformes démocratiques ?
Oui, l'expérience des 6 dernières décennies permet d'en douter, explique un conseiller de l'ancien président Barack Obama au New York Times. Selon une ONG cubaine de Miami favorable au rapprochement entre les deux pays, eh bien la mesure prise par Donald Trump est pour le moins hypocrite. Après tout, il fait aussi du commerce avec la Chine, qui n'est pas non plus un modèle en matière de droits de l'homme. Pour la presse cubaine, en tout cas, il s'agit d'un recul dans les relations américano-cubaines. La responsable des relations avec les États-Unis au ministère des Affaires étrangères cubain, Josefina Vidal, estime que les conséquences se feront sentir dans les deux pays.
Certaines mesures ne cachent pas leur origine politique. Ces mesures ne vont pas seulement porter préjudice à l'économie cubaine, au secteur public comme au secteur privé de notre économie. Elles vont aussi avoir un impact sur les citoyens entrepreneurs américains qui vont perdre des opportunités intéressantes de faire des affaires à Cuba face à leurs concurrents.
Il y a un autre sujet qui fait la une de la presse américaine, Harim, c'est la visite de Donald Trump en Chine.
Oui, le président américain pratique l'art du compromis, titre USA Today. La Chine a certes promis d'acheter des produits américains à hauteur de 250 milliards de dollars, mais ne souhaite pas ouvrir davantage son marché pour Pékin. Il n'est pas non plus question de discuter l'épineux dossier de la propriété intellectuelle et de renforcer la pression sur la Corée du Nord. Donald Trump se plaît dans le rôle du négociateur en chef, estime le journal USA Today, mais les contrats ne remplacent pas une politique et il n'est pas sûr que l'approche commerciale du président soit bénéfique pour les États-Unis sur le long terme.
Et puisque l'on est aux États-Unis, on va revenir sur ce sujet que l'on avait traité dans ce journal fin septembre. Le général Jay Silveria, directeur d'une académie militaire, avait publiquement dénoncé des inscriptions racistes visant 5 personnes noires de son établissement. Le pays était encore bouleversé à l'époque et divisé par les violences extrémistes de Charlottesville. Mais aujourd'hui, on a découvert que l'auteur des insultes haineuses n'était autre que l'une des victimes visées par les messages insultants. Et ce n'est pas la première fois que ce genre de manipulation est relevé, Grégoire Pourtier.
Quand le général Silveira s'est exprimé pour dénoncer les inscriptions racistes à l'Académie de l'Armée de l'Air de Colorado Springs, imaginait-il qu'il toucherait autant de monde ? Son discours devant 1500 élèves officiers a eu un impact retentissant et symbolisé une forme de résistance face à la montée des divergences raciales dans le pays. Aujourd'hui, on apprend que l'auteur des messages haineux placardés sur certaines portes était en fait l'un des occupants des chambres visées, un jeune noir donc, dont on peine à comprendre la motivation ou la stratégie. L'académie assure qu'il avait d'autres problèmes, qu'elle ne le compte plus parmi ses membres, mais cette découverte jette un froid. Certes, cela n'enlève rien à la valeur ou à la puissance du discours du général Silveira, mais cela affaiblit la position de tous ceux qui dénoncent les crimes de haine. D'autant que d'autres manipulations du même genre ont déjà été relevées ces dernières semaines dans des universités du Kansas ou du Michigan par exemple. Même si les cas restent très isolés, cela donne quelques arguments à ceux qui mettent en cause les statistiques montrant que les actions haineuses ont augmenté dans le pays depuis un an. Grégoire Pourtier, New York, RFI.
Et on prend à présent la direction du Brésil, Harim Lipol, pour la suite de votre revue de presse. Le Brésil où le Parlement s'apprête à voter en faveur d'une restriction de l'avortement.
Oui, une commission parlementaire vient d'approuver un texte qui interdit totalement l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. S'il est voté en séance plénière, ce qui est très probable selon le magazine Carta Capital, il n'y aura donc plus d'exception, comme le prévoit la loi aujourd'hui. Jusqu'à présent, une femme a le droit d'avorter en cas de viol ou si sa vie est en danger. D'après Carta Capital, les statistiques sur l'avortement au Brésil sont alarmantes. Une femme sur 5 a déjà réalisé au moins une IVG, très souvent dans des conditions précaires. Et tous les 2 jours, une Brésilienne meurt des suites d'un avortement, précise Carta Capital, en s'appuyant sur les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé.
Et au Venezuela, l'Assemblée constituante a approuvé une loi contre la haine.
Oui, l'incitation à la haine, à la violence et à la discrimination discrimination sera lourdement punie désormais avec des peines qui pourraient aller jusqu'à 20 ans de prison. Gouvernement et opposition n'ont pas la même lecture sur l'objectif de cette loi. Selon la présidente de l'Assemblée constituante Delcy Rodriguez, le texte doit favoriser la tolérance et s'inscrit dans l'esprit de la révolution bolivarienne. Un avis partagé par Lily Rincon, membre de cette assemblée et rencontrée par notre collègue Marie Normand. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de gens persécutés par l'opposition et quelqu'un doit payer pour tout ça, estime donc Lily Rincon, membre de l'Assemblée constituante. Alors côté opposition, Céline, la nouvelle loi est vivement critiquée puisqu'elle renforcera la persécution des citoyens et des médias, écrit le journal El Universal, quotidien justement proche de l'opposition.
Une revue de presse Amérique signée Arim Lipold et on peut la retrouver sur le site de RFI. Et le pouvoir au Venezuela joue donc les équilibristes, on vient de le voir dans cette revue de presse. Financièrement, en effet, le pays se rapproche du défaut de paiement malgré l'annonce d'un accord avec la Russie pour restructurer sa dette. Politiquement également, la crise persiste et elle inquiète l'ONU qui réunira son Conseil de sécurité lundi, le même jour, lundi, que de l'autre côté de l'océan Atlantique où l'Union européenne doit approuver officiellement des sanctions contre Caracas. Alors c'est dans ce contexte que le ministre vénézuélien de l'Éducation a participé à Paris, à la 39e conférence générale de l'UNESCO. Elias Rawa a accordé une interview à RFI. Marie Normand lui a d'abord demandé ce qu'était, selon lui, le principal progrès du Venezuela ces dernières années en matière d'éducation.
En premier lieu, la garantie de gratuité.
D'abord, la garantie d'une éducation publique gratuite, de l'école primaire à l'université. Le Venezuela garantit 24 ans d'éducation publique gratuite pour toutes les franges de la population. 75% de la population étudiante étudie dans le secteur public et gratuitement.
Alors, des habitants de Maracaibo, dans le nord-ouest du pays, nous ont confié le mois dernier que les universités se vidaient en ce moment, car beaucoup de jeunes prenaient la décision de quitter le pays. Est-ce que c'est un défi pour le Venezuela ?
Non, está generado en...
Cela n'est pas dû à notre système éducatif. Il y a sans doute des jeunes qui quittent le pays car la situation économique est difficile. Et ces derniers mois, ils ont aussi dû être effrayés de la possibilité d'une guerre civile provoquée par l'opposition. Mais les conditions d'accès à des études publiques et gratuites sont garanties au Venezuela.
Para el estudio en Venezuela de manera pública y gratuita están garantizadas.
Est-ce que vous essayez de les retenir ? Comment faites-vous dans ce cas pour les convaincre de rester au Venezuela ?
Dans un premier temps, il faut consolider la stabilité politique. Nous sommes en train d'y arriver, c'est ce que nous construisons en ce moment. Nous voulons que l'opposition revienne dans le jeu démocratique et abandonne le chemin de la violence, car c'est l'un des éléments qui effraie notre jeunesse. Il faut aussi diversifier nos revenus nationaux afin d'avoir les ressources nécessaires pour normaliser et stabiliser notre économie, pour que les jeunes sentent qu'ils ont les moyens d'accéder aux biens et aux services qu'ils désirent dans le cadre d'une économie prospère.
Le 15 octobre, seuls 5 États sur 23 ont été remportés par des gouverneurs de l'opposition. L'un d'entre eux a perdu son poste car il a refusé de se soumettre à l'Assemblée nationale constituante, composée uniquement de membres du parti au pouvoir, élu fin juillet. Pourquoi ne pas avoir accepté le verdict des urnes ? Est-ce qu'une élection a plus de valeur qu'une autre ?
Non, la fuerza la tiene el pueblo que va a votar.
Non, c'est l'électeur qui a le pouvoir. Mais le gouverneur, en refusant de se plier à cette exigence, n'a pas pu prêter serment, ce qui constitue une faute grave. Et la constitution de l'État de Zulia dit bien qu'en cas de faute grave, de nouvelles élections sont organisées. Le peuple de Zulia pourra voter pour un candidat de l'opposition ou de la révolution bolivarienne qui se sera inscrit. Donc chaque élection a le même poids, le poids de la volonté du peuple d'élire ses gouverneurs.
Monsieur le ministre, la date des élections municipales a été avancée. On sait qu'une grande partie de l'opposition a choisi de ne pas participer à ces élections municipales. Est-ce que ce scrutin peut être légitime dans ces conditions ?
Por supuesto.
Bien sûr, au Venezuela, tout le monde a le droit d'être élu, mais personne n'y est obligé. On aura bien une participation plurielle, puisqu'au moins 4 partis de la table de l'unité démocratique vont participer.
Pendant votre séjour en France, le président Maduro a annoncé toute une batterie de mesures, une nouvelle augmentation du salaire minimum, l'introduction d'un nouveau billet de 100 000 bolivars et puis aussi la restructuration de la dette extérieure du Venezuela, évaluée à 155 milliards de dollars. Pourquoi toutes ces annonces maintenant ?
Ce sont des mesures dont nous avons besoin et que nous pouvons mettre en place. La direction politique de la révolution bolivarienne, à laquelle j'appartiens, accompagne ces décisions économiques prises par le président. Sa politique d'augmentation permanente du salaire minimum vise à compenser la flambée spéculative et inflationniste qui porte atteinte au pouvoir d'achat des Vénézuéliens. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général, quand un pays subit une contraction de son PIB, immédiatement il réduit les investissements dans le domaine social. En revanche, confronté à cette situation, le président Maduro et la révolution bolivarienne estiment que c'est justement le moment où il faut davantage étendre ses droits sociaux et prendre des mesures inédites pour protéger notre peuple. Les primes que nous accordons à 4 millions de foyers vont permettre d'accroître les revenus des familles, notamment en vue des achats de Noël, qui sont une tradition dans notre pays. Quelle que soit la situation, nous ne voulons pas que notre peuple se sente seul ou perde ses traditions en raison de cette conjoncture économique difficile.
Ou perde lo que son sus tradiciones producto de esta coyuntura económica compleja.
Le ministre vénézuélien de l'Éducation, il répondait depuis le siège de l'UNESCO, c'était la semaine dernière, aux questions de Marie Normand. Et cette information, la Colombie a saisi 12 tonnes de cocaïne dans son pays. C'est la plus grande saisie de l'histoire du pays. Elle arrive dans un contexte particulièrement houleux entre la Colombie et les États-Unis sur la question de la lutte contre le narcotrafic. Le président colombien, Juan Manuel Santos, a d'ailleurs reçu un peu avant une lettre de Donald Trump qui s'inquiétait, je cite, de l'extraordinaire expansion des plantations de coca en Colombie.
Le journal de l'Outre-mer.
Le journal présenté par Edwige Saint-Thomas. Bonjour Edwige.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
À la une, les ministres de la Santé des pays membres de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale qui poursuivent leur visite en Martinique.
Ils se réunissent aujourd'hui, oui, à l'hôtel de la collectivité territoriale. Objectif de cette rencontre, définir les grandes lignes de l'action régionale en matière de santé pour la période 2018-2024. Alors, quel est l'intérêt de favoriser de tels échanges? Élément de réponse avec Christine Cupit de Martinique Première.
Pas besoin de remonter très loin dans le temps pour trouver un exemple éloquent de la coopération régionale dans le secteur médical et sanitaire. Récemment, lors du passage des ouragans Irma, José et Maria, les îles épargnées ont déployé de gros moyens humains et matériels pour porter secours à leurs voisins sinistrés. Mais la coopération régionale en matière de santé, c'est aussi l'offre de soins proposée par les pays membres. Pendant 2 jours, les ministres de la Santé de l'OECS ont pu visiter les établissements hospitaliers de l'île, comme le nouveau plateau technique du CHU. Nos voisins ont été sensibles à la modernité de nos installations. Un atout que certaines îles voisines savent utiliser pour attirer les visiteurs. À Sainte-Lucie, par exemple, on n'oublie pas de mentionner la présence d'un plateau technique hospitalier à moins d'une heure. Il s'agit bien évidemment d'une autre. Avec la coopération régionale, c'est aussi un secteur encore en balbutiement qui peut émerger, celui du tourisme médical. L'île de Cuba a déjà franchi le pas, notamment pour le traitement des cancers. Des malades font déjà le choix d'être soigné là-bas.
Coopération en matière de santé, mais aussi dans le secteur du tourisme, avec l'ouverture aujourd'hui du Smile Caraïbes 2017 en Martinique. C'est le salon des métiers de l'industrie, des loisirs nautiques et de l'environnement. Cette manifestation est tournée vers la Caraïbe. Ça n'a pas toujours été le cas. Les explications de Bénédicte Montfort, chargée de mission projet stratégique à la communauté d'agglomération.
L'ouverture de la Caraïbe, ça a été vraiment une volonté forte du président de l'Espace Sud et des élus communautaires de tourner en fait le territoire vers la Caraïbe. Il faut savoir en fait que le SMILE s'intègre dans un projet beaucoup plus global qui est le projet Odyssea, qui est un projet touristique de coopération et qui se base en fait sur le développement d'une stratégie autour de la croissance bleue avec des partenaires caribéens de la petite Caraïbe mais aussi de la grande Caraïbe. Donc en fait, c'est l'idée de prendre les villes, les clientèles des villes portuaires, donc telles que la marina du Marin, qui est vraiment une marina avec de fortes potentialités, et de les emmener vers les villes intérieures grâce à des itinéraires touristiques, thématiques, autour de la gastronomie, du patrimoine, de l'art, et de permettre de créer de véritables produits touristiques et également de créer un partenariat avec les villes portuaires de la Grande Caraïbe et de la Petite Caraïbe.
Et puis, les marins pêcheurs de Pointe-Noire bloquent la circulation sur le port de Baie-Argent de la Basse-Terre en Guadeloupe. Ces professionnels de la mer protestent contre la construction d'une station-service qui, disent-ils, menacerait leur activité. Excellente journée.
Merci Edwige Saint-Thomas et bonne journée à vous. C'est la fin de cette édition réalisée par Lorenzo Danet. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver toutes les actualités développées dans ce journal d'Haïti et des Amériques sur le site internet de RFI, les applications mobiles et sur notre page Facebook. Bonne journée à vous.
Découvrez musique.rfi.fr. Retrouvez toutes les infos, la biographie, les vidéos et les émissions de RFI consacrées à Swann Massy. Sur musique.rfi.fr, vibrez en temps universel.